الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، حتى قال: أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحمد لله، نرجو الله تبارك وتعالى notre رب الله عز وجل qui nous a donné une vie dans laquelle nous avons plusieurs challenges à relever. Et parmi ces grands défis, il y a la relation entre parents et enfants. Il y a trois mots dans ce thème. Relation, qui est très important, parents et enfants. Alors, Inch'Allah, on va essayer de traiter ce sujet en quelques points. D'abord, en essayant de voir et de comprendre que la relation parent-enfant, elle entre dans notre objectif ultime, qui est d'obtenir la satisfaction d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est un élément qui fait partie intégrante de notre dîn. Les hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux à ce sujet. L'attitude qu'un enfant doit avoir envers ses parents, et également le comportement, la réaction des parents envers les enfants. Les versets du Saint-Coran et Karim également ne manquent pas, et Allah Azza wa Jal a choisi plusieurs récits de différents anbiya alayhi salat wa salam, différents prophètes, pour nous faire comprendre que derrière cette relation, il y a l'ultime objectif de réussir dans notre vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Ensuite, Inch'Allah, nous verrons quelques points essentiels, quelques notions qui sont très importantes dans cette relation, afin d'essayer de faire en sorte que, Inch'Allah, cette relation soit une source de profit, de bien-être et de réussite. Et nous terminerons, Inch'Allah, par quelques conseils pratiques qui nous aideront, avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, à réaliser cet objectif. Alors, comme nous l'avons dit, alhamdulillah, dans les versets du Saint-Coran et Karim, Allah tabarak wa ta'ala, à divers endroits, il parle de différents anbiya alayhi salat wa salam. Il nous parle de Sulayman et Daoud alayhi salat wa salam, le père et le fils. Il nous parle également de Nuh alayhi salat wa salam et son fils. Il nous parle de Ibrahim alayhi salat wa salam et son fils. Et Allah tabarak wa ta'ala veut nous faire comprendre à travers ces récits quelle attitude adopter. Alors, dans ces différentes histoires, dans ces différents récits, vous savez qu'Allah tabarak wa ta'ala le dit clairement: laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Il y a sans doute dans ces récits, il y a des leçons à retirer. Et il y a bien évidemment l'histoire par excellence qui montre la relation entre un père et un fils, celle qui est décrite comme la plus belle des histoires du Saint-Coran et Karim, Ahsanul Qasas, entre Hazrat Yaqub et Yusuf alayhi salat wa salam, mais également ses frères. Donc, dans ces différents récits, Allah tabarak wa ta'ala, il nous fait comprendre plusieurs choses. Il nous fait comprendre l'attitude à adopter. Il faut savoir que Nuh alayhi salat wa salam, son fils, n'a pas accepté l'islam et il n'a pas eu la réussite. Ibrahim alayhi salatu wassalam et son fils Ismaïl alayhi salam, ils ont construit ensemble la Kaaba. Yaqub et Yusuf alayhi salatu wassalam, ils ont vécu une très longue séparation, une relation qui a été empreinte de tristesse, de beaucoup de douleur, mais qui malgré tout se termine bien. Et Allah Azza wa Jalla nous dit: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de leçons, de recommandations à comprendre à travers ces récits. Alors, il y a bien évidemment la théorie, mais il y a avant tout et surtout la pratique. Il y a des notions qui sont évidentes, mais qu'il faut quand même rappeler. C'est une relation d'amour, de compréhension, de sagesse, d'autorité, de droit, de devoir, de responsabilité. Tous ces éléments vont faire en sorte que cette relation, inshallah, elle va s'embellir au fur et à mesure. Alors, à travers les versets du Saint-Coran et Karim, comme nous l'avons dit, Allah tabaraka wa ta'ala, juste pour rappeler cela brièvement, nous avons des versets du Saint-Coran qui nous rappellent fréquemment que n'oubliez pas, mais vos enfants, c'est votre investissement et votre capital pour l'au-delà. Il y a un verset de la sourate Tour où Allah Azza wa Jalla nous dit: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Et dans l'explication de ce verset, les commentateurs du Saint-Coran et Karim expliquent que si les parents ont atteint un degré supérieur dans la piété, un degré supérieur à leurs enfants, alors par la baraka des actions de leurs parents, ces enfants seront élevés à ce degré supérieur. Et cela est valable dans le sens inverse également. Si ce sont les enfants qui ont atteint un degré supérieur aux parents dans la piété, Allah Azza wa Jalla dit: Al-haqna bihim dhurriyatahum. Nous allons faire en sorte que les parents seront élevés à ce degré supérieur. Donc ça, c'est une notion très importante. Que nos enfants, ce sont nos investissements. C'est notre capital. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith sharif qu'on a cité au début, il nous dit: lorsque l'être humain quitte ce monde, alors toutes ses actions s'arrêtent, sauf trois d'entre elles. C'est ce qu'on appelle en général une sadaqatun jariya. Ce sont des actions qui vont persister, qui vont perdurer. Et parmi les choses que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a citées, il dit: aw waladun salihun yad'u lah. Il a un enfant pieux qui après sa mort va invoquer Allah azza wa jal pour lui. Et grâce à ces invocations, Allah tabaraka wa ta'ala élèvera le degré de cette personne. Vous avez bien évidemment la réussite lorsque l'enfant est vivant, mais il y a également une réussite que les parents peuvent obtenir lorsqu'ils perdent leur enfant en bas âge. Allama Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala, parmi tant d'autres savants, a écrit un livre sur les vertus de rester patient lorsque quelqu'un est testé par la perte d'un enfant. Ce livre, il s'appelle Fadlul Jalad inda faqdil walad. La récompense de faire preuve de patience et de résilience lorsque quelqu'un il perd un enfant. Dans un hadith sharif, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il raconte, il dit que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala il a pris cette décision, il a décrété qu'un enfant en bas âge doit quitter ce monde. Et il faut rappeler que ça peut arriver, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège et nous donne la afia, mais ça peut arriver. Alors le hadith sharif, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala demande aux anges et s'adresse aux anges et dit: قَبَضْتُ ثَمَرَةَ فُؤَادِي. J'ai pris le fruit de son cœur, la prunelle de ses yeux. Comment a réagi mon serviteur? Les anges disent: oh Allah, il a fait tes louanges. Il a accepté ta décision. C'est un très haut degré. Rida bil qada. Ce n'est pas facile, mais il a accepté cette décision, oh Allah.
Allah tabarak wa ta'ala, en voulant récompenser ce serviteur, il dit, ben, construisez un palais pour cet homme, pour ses parents dans le paradis, et on appellera ce palais Baytul Hamd, la maison de la louange. Et il y a un hadith parmi tant d'autres, alors le livre est ici, il a été traduit en anglais également. Un hadith parmi tant d'autres pour nous montrer les vertus de cela, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il nous dit, c'est rapporté dans le Majma'u Zawa'id par Allama Haythami rahimahullahu ta'ala, le hadith numéro 3998, qui dit en ce sens que la personne qui a perdu un enfant en bas âge, certaines traditions, certains hadiths mentionnent trois enfants, d'autres deux, mais également certains un enfant. Et bien cet enfant-là, ce sera une protection contre le feu de l'enfer pour les parents, et sans doute sa récompense, la récompense de ses parents n'est autre que le paradis. Prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Donc, lorsqu'ils sont vivants, bien évidemment, mais lorsqu'ils quittent cette terre également. Dans ce dunya, Allah tabarak wa ta'ala, il nous appelle et nous fait comprendre cela. Il y a quelques jours de cela, le 15 mai, si je ne me trompe, un enfant de 5 ans, il a sauvé son père. Vous avez entendu certainement l'anecdote. Son père a eu une sorte de coma cardiaque dû au diabète. Un enfant de 5 ans, il a pris le téléphone. Il a fait le 17. Il a appelé les urgences. Les gens sont venus. Ils ont fait la géolocalisation. Ils ont retrouvé les parents. Lorsqu'il a passé le premier coup de fil, alors le téléphone, l'enfant dit, il a bugué. Donc il a pris un autre téléphone. Il a rappelé les urgences. Il a attendu, il a ouvert la porte, il a ouvert le barreau, il a attendu les secours. Et alhamdulillah, Allah a fait que son père a pu être sauvé. Alors c'est extraordinaire. Et vous savez que les muhaddithoun, les commentateurs, les experts du hadith, ils nous disent que l'âge minimum à travers lequel un enfant il peut rapporter un hadith, tahammulul hadith, c'est l'âge de 5 ans. Cet enfant-là, il avait 5 ans également. Mais il ne faut pas croire que l'éducation des enfants commence à l'adolescence ou bien lorsqu'il devient mature. Ça commence avant même la naissance. Ça commence avant même la naissance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit également que lorsqu'un homme il a une relation avec sa femme et qu'il lit ce dua, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana, alors cet enfant-là sera protégé contre shaytan. À la naissance de l'enfant même, nous savons que le taqdir de l'enfant, il est déjà écrit. Combien de temps il va vivre sur cette terre? Quel sera son rizq? Est-ce que ce sera une personne qui aura la réussite ou pas? Donc, ça ne commence pas à partir de 7 ans. C'est à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Mouru awladakum bis salati wa hum abna ou sab'i sinin, lorsqu'ils ont 7 ans. Mais avant cela, l'éducation, elle commence. Et les psychologues ont travaillé sur le développement intellectuel, premièrement. Le développement affectif, deuxièmement. Et le développement social des enfants. Et à chaque tranche d'âge, l'enfant, il réagit différemment. On le voit, lorsqu'un enfant, il naît, à partir de 2 mois, il commence à reconnaître ses proches. Il commence à sourire avec ses parents. Tout cela entre dans son éducation. Et vous voyez, le pic, le summum qui est l'adolescence, la crise d'adolescence qui est parfois difficile à passer. Alors plus on aura apporté, donné une bonne éducation avant ce moment fatidique, mieux inshallah il traversera cette période, les parents et les enfants. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris cela. Que dans ce dunya, ses enfants seront une source de réussite, mais les parents également. Dans les hadiths mubarakah très connus, vous savez que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à une occasion, il a dit dans un hadith rapporté dans le Mustadrak, Al-Hakim et le Musnad Ahmad également, et dans d'autres livres, où quelqu'un est venu voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'a questionné à propos de ses parents, et il lui a dit, Innal jannata inda rijlayha. Le paradis se trouve au pied de ta mère. Dans une autre version, un peu plus connue, même si le hadith sharif est considéré un petit peu comme étant faible, mais appuyé par d'autres versions, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Le paradis se trouve au pied de vos mères. Les parents peuvent obtenir le succès et l'élévation de leur degré par le biais des enfants. Et les enfants peuvent obtenir le paradis grâce à leurs parents, en étant à leur service. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre riwayat, un autre hadith sharif, il nous dit que la satisfaction ultime, le rida d'Allah, se trouve dans le contentement des parents. Rida al-Rabbi fi rida al-Walid wa sakhatu al-Rabbi fi sakhati al-Walid. Donc à travers ce hadith mubaraka, on voit que cette relation parent-enfant, elle fait partie intégrante de notre din. Il ne faut pas qu'on l'oublie. L'un des plus grands savants qui a existé, Amirul Mu'minin fil Hadith, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il est né aveugle. Sa mère a fait doua pour lui et il a retrouvé la vue. Et il est devenu Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Donc il ne faut pas négliger cet aspect. Voilà pour la partie, on dira un petit peu plus théologique à travers l'explication des ahadiths et des versets du Saint-Coran et Karim. Maintenant, on va passer à une deuxième partie dans laquelle on va, Inch'Allah, essayer de mentionner quelques points, quelques fondements, quelques principes essentiels qui, Inch'Allah, vont nous aider à avoir une meilleure relation entre parents et enfants. Donc, ces points essentiels, il y a bien évidemment d'abord et avant tout, donc ça tournera, Inch'Allah, autour de la communication, très important. Ensuite, de la présence. Ne pas avoir des enfants absents et des parents absents. Ensuite, nous verrons l'amour et la sagesse. Ça, c'est quatre points, Inch'Allah, la communication, la présence, l'amour et la sagesse, qu'on va essayer de traiter, Inch'Allah, en essayant d'apporter quelques éléments. Alors la communication, nous l'avons dit en introduction, à travers les récits du Saint-Coran et Karim, puisque nous sommes dans le mois de Ramadan, la sourate Yusuf, elle fait un peu office d'exemplarité et de source d'inspiration pour cette relation entre parents et enfants. Vous savez bien ce qui s'est passé, on ne va pas reprendre l'histoire, mais ce qu'il y a de marquant là-dedans, c'est que autant la tristesse de Yaqub alayhi salat wa salam, elle était grande, autant à aucun moment il a rompu les relations avec ses autres enfants. Et lorsque vous regardez la deuxième phase, c'est-à-dire lorsqu'ils sont allés en Égypte et que Yusuf alayhi salat wa salam était donc le ministre, c'est impressionnant. À travers deux ou trois pages du Saint-Coran et Karim que nous avons, combien de fois le mot Ya Abana Muni'a minna al-kayl, Ya Abana Ma Nabri, Ya Abana Hadhihi Bida'atuna Ruddat Ilayna. Et le père, qu'est-ce qu'il dit? Ya Bunayya La Tadkhulu min Babin Wahidin Wadkhulu min. La communication, elle n'est pas rompue. Ça, c'est important. C'est très important. Et quelqu'un nous disait qu'une fois, un père est allé vers un marchand de téléphone mobile et il a dit « Mon téléphone ne fonctionne plus. » Alors le vendeur, il prend son téléphone, il regarde, il dit bah, « Non, tonton, ça va bien, ça fonctionne. » Il dit « Ah bon ? Mais ça fait une semaine que mon fils ne m'a pas appelé. Je pensais que ça ne fonctionnait plus. » Comment est-ce possible d'entretenir une relation normale si nous ne pouvons même pas communiquer avec nos parents? Le minimum. Appeler nos parents. Alors il faut bien comprendre qu'il y a des phases. Il y a ce qu'on va appeler l'enfance, de 0 à 7 ans. Tout en sachant que, comme nous l'avons dit, mashallah, les psychologues ont bien détaillé les différents développements affectifs, intellectuels, etc., etc. Et ils ont sectionné cela sous plusieurs âges, à commencer par la naissance jusqu'à l'adolescence, etc. Mais nous, on va dire que de 0 à 7 ans, ça, c'est l'enfance. Après, vous avez de 7 à 12 ans environ,
12, 13 ans, on va appeler ça la jeunesse.
Après, l'adolescence va commencer. Et ensuite, il va se marier et il va atteindre l'âge adulte et la maturité. Alors, en fonction de ces phases, voyez les quatre points qui ont été donnés un petit peu en préambule. L'autorité, l'amour, droit, devoir, responsabilité et l'entraide. Ça, ça va évoluer. Et il ne faut pas oublier dans cette relation entre parents et enfants qu'un enfant, physiquement, il va changer. Intellectuellement, il va changer. Affectueusement, il va changer. Il va toujours rester votre enfant. Et ils seront toujours vos parents. Mais ils vont évoluer. Et parfois, vous voyez ce cap très sensible à passer de l'adolescence, ou bien même après, certains psychologues vont même jusqu'à dire que si un enfant n'a pas connu la crise de l'adolescence, alors il fera sa crise de l'adolescence dans l'âge adulte. Donc ce cap qui est un petit peu sensible à passer, il va arriver. Et ces quatre éléments, l'autorité, parfois elle va être mise à rude épreuve. Lorsque notre fils ou bien notre fille est encore dans la phase qu'on a appelée, on a déterminée comme l'enfance, ça va plus ou moins bien. L'amour qu'un père, une mère doit apporter à ses enfants, il va évoluer. Lorsque l'enfant, il vient d'être né, et lorsque l'enfant, il est adulte, il a toujours besoin de cet amour. Même si parfois, qu'alla innal insana la yatra, arra'ahu starna. L'enfant, il se croit indépendant, plus besoin de ses parents. Même s'il a sa voiture, même s'il a sa maison, même s'il a son travail, même s'il a un auditoire, il a toujours besoin de l'amour de ses parents. Parce que personne d'autre ne peut lui apporter et ne peut irriguer cette relation. Alors, ces quatre éléments-là, ils vont évoluer. Donc, on a dit d'abord, le premier point, c'est quoi? C'est la communication. C'est très important. C'est très important que dans cette communication-là, alors, on va toujours garder le lien. Les psychologues nous disent, parce que ça tourne beaucoup, à mon sens, autour de la psychologie, que vous voyez, lorsque je reçois des enfants, vous voyez pourquoi ils se sentent bien? Parce qu'ils trouvent, à travers ces psychologues-là, un endroit audible. C'est-à-dire un endroit où ils peuvent s'exprimer. Certains d'entre eux, les experts de la psychologie, disent « On a reçu un enfant de 18 mois. » Et dans la thérapie avec son père, à chaque fois l'enfant, il essayait de dire quelque chose, mais le père l'interrompait. Alors à un moment, lorsqu'il arrive à la porte du cabinet du psychologue, le père dit « Mais qu'est-ce que mon enfant veut me dire ?» Le psychologue répond, mais si seulement vous le laissiez parler. Si seulement vous le laissiez parler, alors on saurait. Et c'est là que l'enfant dit à son père, prends soin de toi. Parce qu'il a senti que le père, il est anxieux. Il a senti qu'il n'est pas épanoui. Donc cette communication-là, elle est très importante. Il est dans la drogue. Il a une relation illégitime. Mais il ne peut pas discuter avec ses parents. Et vous voyez, bien souvent, lorsqu'il émigre vers ses actes de désobéissance, c'est pour combler un manque. C'est parce qu'il a un manque au fond de lui. C'est parce qu'il n'arrive pas à être épanoui. C'est parce qu'il ne trouve pas dans son cercle le plus proche, dans sa famille, il ne trouve pas ce dont il a besoin. Et il a besoin de communiquer. Il a besoin de parler. Il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de se confier. Mais pour communiquer, ça nous amène à notre deuxième point. Il faut être présent. Il faut ouvrir la porte. Certes, il faut de la rigueur. Certes, il faut de la discipline. Mais il ne faut pas arriver à un stade où l'enfant, il a la conviction que, ah, de toute façon, papa est gay, papa cause avec lui. Impossible. Il ne pas dire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout faire. Mais il faut qu'il soit capable de communiquer. Subhanallah, le fait de parler, ça apaise énormément. Parfois, on est pris dans une sorte et une forme de dépression. On ne sait pas où aller. Et en apparence, on est très bien. Mais au fond de nous, on est très mal. Mais on n'arrive pas à communiquer. Donc comme on a dit, ça nous amène à notre deuxième point, la présence. La présence aussi bien des parents, mais aussi, et bien évidemment, des enfants. Lorsque on arrive vers l'âge adulte, alors parfois, on se plaît, on se complaît dans notre confort, dans notre réussite professionnelle. Et on a cette conviction qu'on n'a plus besoin de nos parents. Kalla wa haja. Impossible. On aura toujours besoin d'eux. Quelqu'un qui vient faire un bayan ici, pour ne pas parler de moi, alors on a toujours besoin des doigts de notre mère ou de notre père. Quel que soit le statut que vous avez. Alors la présence, c'est important. On est tellement pris par notre travail. L'enfant se réveille le matin, il ne voit pas son papa. Il se couche le soir, il ne voit pas ses parents. Il rentre à l'école pour la première fois, parents absents, papa absent. En général, la maman est là. Il va obtenir son diplôme, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce qu'à l'école, ça se passe bien? Est-ce qu'à la madrasa, ça se passe bien? Est-ce que mon fils évolue? Je regarde à travers ses fréquentations. Est-ce qu'il est atteint des troubles? Est-ce qu'il a une hyperactivité? Est-ce qu'il change? Je ne suis pas là. Une fois, petite anecdote, un enfant, il demande à son père. Il dit, papa, combien est-ce que tu gagnes par heure? Combien tu es payé à l'heure? Alors, le papa lui dit, allez, 40 € de l'heure. Très bien. Il dit, papa, tu peux me prêter 40 € s'il te plaît? Je voudrais acheter une heure de ton temps. Parce qu'il n'est pas là. Comment parler de relation entre parents et enfants s'il n'y a pas de relation? S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. S'il n'y a pas de présence, il n'y a pas de relation. C'est important. Ils font très attention. Dès le plus jeune âge, et ça fait partie des conseils pratiques, Inch'Allah, qui viendront vers la fin, Inch'Allah. Dès le plus jeune âge, ils observent. Si vous allez mettre qira'at, cher, Naïna ou bien Munshawi, ce que vous voulez, alors même s'il n'écoute pas, même s'il ne fait pas attention, ça reste gravé dans sa tête et dans son cœur. Si vous faites la prière à la maison, principe d'exemplarité, certains utilisent ce terme, vous faites la prière, eux aussi, Inch'Allah, ils seront attachés à la prière. Si on va utiliser un langage déplacé, malsain, les enfants, ils enregistrent. Si on a l'habitude de faire le vikr, salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ilaha illallah, les enfants ils voient, ils mémorisent, ça reste gravé, ça reste ancré dans l'esprit. Donc ça c'est important, la présence, très bien, ça c'est notre deuxième point. Donc il ne faut pas être absent, il faut donner du temps, il faut être là, il faut les consoler, il faut les accompagner. Troisième point, c'est quoi? C'est l'amour. Alors, l'amour, comme on a dit au début, ça doit être naturel. Bien évidemment qu'un père, il a de l'amour pour ses enfants. Et que les enfants, ils ont de l'amour pour leurs parents. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il vouait un amour extraordinaire à sa fille bien-aimée, Hazrat Fatima, radiyallahu anha. Il arrive dans sa maison et il montre de l'affection à Hazrat Fatima, radiyallahu anha. Il va quitter cette terre et il appelle Hazrat Fatima, radiyallahu anha. Il chuchote quelque chose dans ses oreilles. Elle pleure. Et puis il chuchote encore quelque chose dans ses oreilles. Elle commence à rire. Aïcha radiallahu anha qui est là. Après elle demande, mais oh Fatima, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça, c'est elle répond, ça c'est un secret entre moi et lui. Après le départ de ce monde du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors elle réitère à sa demande. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé que bientôt il va quitter ce monde. C'est pour ça qu'elle a pleuré. Et ensuite, il lui a annoncé que tu seras la première à me rejoindre. C'est pour ça qu'elle a communication, présence, amour, affection. Ça, c'est très important. Alors, dans cet amour-là, et également dans cette sagesse, Il y a un génie de ce siècle, ou bien du siècle précédent. Il est né en 1874. Il s'appelle Thomas Edison. Il a inventé l'ampoule. Alors lui, il a une histoire qui est source d'inspiration. Un jour, il arrive à la maison avec une lettre de la part de l'école. Et le directeur, le principal de l'école, il lui dit, cette lettre, il faut que tu remettes à ta mère, uniquement à ta maman, personne d'autre. Alors il arrive à la maison et il donne cette lettre à sa maman. Et sa maman lit la lettre à voix basse et elle commence à pleurer. Et elle dit, mon fils, tu es un surdoué. L'école ne peut pas te recevoir, il faut que c'est moi qui t'enseigne et qui t'éduque à la maison. Et il devient un génie de ce siècle. Il a inventé notamment l'ampoule, le phonographe, etc., etc. Et il a déposé plus de 1093 brevets. Alors un journaliste, il dit, un jour on lui a demandé, parce qu'avant de pouvoir inventer bismillah l'ampoule, 199 fois il a échoué. Alors Thomas Edison, il lui a répondu. Il a dit, je n'ai pas raté, je n'ai pas échoué 199 fois, mais j'ai appris 199 fois. Chaque erreur que j'ai faite, ça m'a aidé dans la construction et dans mon développement personnel. Alors il devient le génie de ce siècle. Et un jour, un beau jour, après le départ de ce monde de sa mère, il trouve cette fameuse lettre dans une boîte. Et là, il ouvre cette lettre et il voit que sur cette lettre, il est écrit « Votre fils est nul, il est déficient. Nous ne pouvons pas l'enseigner, c'est à vous de faire son éducation. » Et là, alors Thomas Edison, dans son journal, il écrit « J'étais un enfant nul et déficient. » Qui, grâce à une mère héroïque, est devenue le génie du siècle. Et les études américaines montrent que plus le lien d'affection entre la mère et l'enfant est développé, plus les compétences intellectuelles également se développent. Il y a une parole qui est, je pense qu'elle est assez connue, on va dire, entre les savants ou bien les scientifiques, qui dit en ce sens que tout le monde pensait que c'était irréalisable. Ça, c'est pour montrer que souvent, on n'utilise pas assez nos compétences. Et c'est important en tant que parent de reconnaître l'aptitude de l'enfant afin qu'il puisse s'épanouir. Attention, il puisse s'épanouir, non pas forcément parce que j'ai envie, mais parce qu'il peut devenir. Les psychologues, encore eux, ils disent, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'enfant désiré à l'enfant décidé. Les parents veulent qu'il devienne ça, mais lui, il n'a pas cette aptitude-là. Et finalement, on met tellement de pression de la réussite, la réussite, la réussite, la réussite, et on a confondu la réussite et le bonheur, que c'est pour ça qu'ils échouent. Alors, entre les scientifiques, il y a cette parole qui est plus ou moins connue. Les journalistes l'écrivent. Ils disent, tout le monde pensait que c'était irréalisable. Et un jour, pardonnez-moi l'expression, un homme imbécile, qui ne savait pas que c'était irréalisable, il est arrivé, il l'a fait. Donc il a réussi. Pourquoi ? Une question de psychologie, de vision des choses. Donc cet amour-là, c'est très important. Et également, bien évidemment, cette sagesse. Et cette sagesse-là, lorsque nous allons, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, mettre tous ces ingrédients ensemble, c'est-à-dire la communication, l'amour pour l'enfant, la présence et la sagesse, alors, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, on va arriver au résultat qui est la réussite. Et cet amour, bien évidemment, il va dans un sens comme dans l'autre. Inch'Allah, bientôt, on arrive à la deuxième partie pour les enfants. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors juste pour un petit peu introduire, si vous voulez, cette partie, il y a un petit poème, petite parole en ce sens comme ça, d'un enfant qui a écrit pour sa maman, et il dit: désolé Pythagore, mais ma mère est l'équation la plus facile. Désolé Newton, mais ma mère est le secret de l'attirance. Désolé Edison, de qui on vient de parler, mais la première lampe de ma vie, ma mère est la première lampe de ma vie. Désolé Rome, mais tous les chemins mènent à ma mère. Désolé Juliette, mais ma mère est mon premier amour. Ça, c'est ce qui doit être la relation entre parents-enfants. Il ne faut pas avoir peur d'aimer, subhanallah. Dans le halal, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, avec même ses petits-enfants, Hassan Hussein, radiallahu anhuma, il les prend et il les embrasse. Et il dit, innakum latubakhilun, wa innakum latujannibun, wa innakum lamin rayhanillah. À cause de vous, parfois, on hésite à dépenser. À cause de vous, parfois, on hésite à faire des efforts dans le chemin d'Allah. Mais vous faites partie du risque d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, c'est très important. Dans un autre hadith sharif, un sahabi, il voit une fois le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en train d'embrasser ses petits-enfants. Il dit, ah, Rasulallah, tu embrasses tes petits-enfants? Moi, j'ai 10 enfants, jamais je ne les ai embrassés. Inna lillahi. Celui qui n'est pas miséricordieux, compréhensif, affable envers les autres, Allah ne fera pas preuve de miséricorde sur lui. Il y a malheureusement et heureusement quoi? Qu'il faut attendre le jour de Eid pour que une fois dans l'année au moins une fois dans l'année, un fils, il va prendre son père dans ses bras. Malheureusement et heureusement. S'il n'y avait pas ça, peut-être que ça n'arriverait pas, na'ouzoubillah. Communication. Et ça tourne énormément autour de ça. Alors, ces qualités-là, dans l'éducation, la communication, la présence, l'amour et la sagesse. Maintenant, on passe un petit peu à ce que, on va dire, les enfants, nous, on doit faire. Et lorsqu'on regarde le Saint-Coran et Karim, ce qui est extraordinaire dans le Saint-Coran, vous voyez que Allah tabarak wa ta'ala, il dit par exemple que les serviteurs de Ar-Rahman, ils vont faire dua, ils vont invoquer Allah tabarak wa ta'ala. Pourquoi? Hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Qu'ils deviennent la fraîcheur de nos yeux. Mais lorsqu'il s'agit des parents, à chaque fois, qu'est-ce qu'Allah azawajal dit? Wa bil walidaini ihsana. Ihsan, c'est pas que s'il m'a fait du mal, je lui fais du mal. Non. Ihsan, même il vous fait du mal, vous lui faites du bien. Et souvent dans les versets du Saint-Coran et Karim, Allah Azza wa Jalla dit wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah tabaraka wa ta'ala vous recommande fortement d'agir, d'être bienveillant envers vos parents. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Et vous voyez cette étape-là, on a oublié les difficultés que la mère elle a dû supporter lors de la grossesse. On a oublié ça. Lors de la naissance, Hazrat Maryam radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit? Ya laytani mittu qabla hadha. Oh Allah, vaut mieux que je meure. Tellement l'accouchement c'est difficile. Dans un hadith, prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui demande: man ahaqqu an-nas bi husni sahabati, avec qui je dois mieux me comporter? Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ta mère. Il repose la question et dit encore une fois: ta mère. Repose la question et dit encore une fois: ta mère. Ensuite il dit: ton père. Et ça, la grossesse, l'accouchement, hamluhu wa fisaluhu, l'allaitement, on a oublié. Ah, il y a un moyen peut-être de nous rappeler cela. Vous savez c'est quoi? C'est lorsque nous-mêmes on va devenir parents. Et que là on va voir, on va se dire: ah bon? L'accouchement c'est difficile comme ça? Ah, il faut se réveiller la nuit? Je ne savais pas. On ne m'a pas dit. Oui. Ta mère et ton père ne t'ont jamais rien dit. Mais ils ont toujours été là pour toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. C'est pour ça que le Coran est Karim, il dit « وَبِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا » S'il y a bien une chose à faire envers les parents, « إِحْسَان » Soyons aveugles de tout ce qui a pu se passer à côté. Soyons aveugles, oublions. Pourquoi ? Parce qu'ils t'ont fait tellement de bien, ne serait-ce que dans ton éducation, dans la naissance, la grossesse, l'accouchement. Elle a enduré tellement de souffrances, de labeurs, que ça, même si toute ta vie, tu passes ta vie à les payer, jamais tu pourras rendre ça. Ihsan, c'est important. Deuxièmement, khidma. Khidma des parents. Alors, parfois on a une conception religieuse. On dit, alhamdoulilah, on veut devenir un grand saint de l'islam, mashallah. Très bien. Dans les hadiths, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'un personnage, d'un tabi'i, qui s'appelle Uwais Qarni, rahimahullah ta'ala, qui était au service de sa mère, et à qui le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé au sahaba, Hazrat Umar, radiallahu anhu, si vous le rencontrez, demandez-lui de faire doua pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il était au service de sa mère. Khidma, c'est important. Des choses simples. On a dit, n'oublions pas les phases, les trois phases. Quand c'est l'enfance, 0 à 7 ans, ça va. Plus ou moins, on accepte l'autorité. Plus ou moins, on a de l'amour. Plus ou moins, on comprend les droits et devoirs. Mais lorsqu'on commence à aller vers la deuxième phase, la jeunesse et la troisième, l'adolescence et la quatrième, la maturité, l'âge adulte, alors malheureusement on oublie ça. On oublie de rendre visite à ses parents. On oublie d'être à leur service. Shah Marana Abrarul Haqsab, rahmatullahi alayhi, qui était un grand saint de notre époque. Alors lui, il a écrit que nos devoirs, les devoirs des enfants envers les parents, ils sont au nombre de 14. Et Marana Abrarul Haqsab, rahmatullahi alayhi, il dit qu'il y a 7 parmi ces 14 devoirs des enfants envers les parents qui sont lorsque nous sommes vivants, et il y en a 7 lorsque nos parents ont quitté ce monde. Et comme nous l'avons dit au début, c'est-à-dire que, bien évidemment, nos enfants, lorsqu'ils sont vivants, alors ils peuvent nous apporter beaucoup dans l'au-delà. De la même manière, nos parents, lorsqu'ils sont vivants, ils nous apporteront beaucoup. Mais lorsqu'ils ont quitté ce monde également, alors on ne doit pas oublier les bienfaits qu'ils nous ont donnés. Être à leur service, envoyer le Isra al Thawab, c'est-à-dire faire parvenir des actes de récompense, payer leurs dettes, garder les bonnes relations avec leurs amis, continuer à faire dua pour eux. Tout ça, ce sont des recommandations et des devoirs que nous avons envers eux, même lorsque nos parents, ils ont quitté ce monde. Donc, ihsan, ça c'est très important. Khidmat, c'est très important. Ita'at, c'est très important. C'est-à-dire l'obéissance. Alors, l'obéissance, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit, tout à l'heure. Lorsqu'on arrive dans l'âge adulte, on perd cette notion d'obéissance. Parce que on a développé notre intellect. Parce qu'aujourd'hui, on est où on se croit indépendant. Et malheureusement, on oublie cela. Donc ça, c'est trois points importants concernant notre comportement en tant qu'enfant avec nos parents. Ihsan, il faut faire le bien. Être aveugle, entre guillemets. Oublier un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a eu, etc. et passer dessus. Deuxièmement, khidmat, être à leur service. Si ce sont des gens qui sont endettés, alors c'est de notre devoir de les aider. Mais vous voyez, plus que le bien financier qu'on peut leur apporter, la présence, la chaleur humaine, ça c'est extraordinaire. Et c'est ce qui disparaît aujourd'hui, et c'est ce qui est aussi le plus important. On va passer donc, Inch'Allah, à la troisième partie. Et cette troisième partie, comme nous l'avons dit, Inch'Allah, elle concerne quelques conseils pratiques. Alors, quelques conseils pratiques, ce sont des choses que, Inch'Allah, plus ou moins, nous tous, on connaît, mais qui, Inch'Allah, va beaucoup nous aider. Juste, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, un petit peu en complément de point numéro 2, ce qui était de l'amour. On a vu la communication, l'amour pour les parents. Vous voyez, dans cet amour-là, il y a Cheikh Salma Al-Udda. Quelqu'un lui a posé la question, il lui a dit, comment doit-on faire pour que nos enfants aiment la salah? Alors il a répondu, sa première réponse, faites en sorte qu'ils vous aiment. Faites en sorte que vos enfants vous aiment. Et là, il a développé, il est parti un petit peu plus loin, et il a fait une explication intéressante entre deux termes. Entre ce qu'on appelle la tarbiya et le ta'alim. On va dire l'éducation et l'enseignement. Et souvent, on fait du ta'alim. Mais rarement, on fait de la tarbiya. Et vous savez, le miracle du Saint-Coran, il est également là. C'est quoi le doua qu'on doit faire pour nos parents ? Rabbir hamhuma kama rabbayani. Comme ils ont fait ma tarbiya. Alors il donne plusieurs exemples. Parmi ces exemples, brièvement, qu'est-ce qu'il dit ? Ta'alim, c'est quoi ? Tu apprends à ton fils à faire la salah ou à ta fille. Tu lui enseignes les doua. Tu lui enseignes les masa'il. Voilà, il faut faire namaz comme ci, comme ça, etc., etc. Et tarbiya, vous avez fait la salah ensemble. Et lorsque la salah est terminée, alors le père, il demande à son fils ou à sa fille, qu'est-ce que tu as lu dans la salah ? Quel doua tu as fait ? Ça, c'est tarbiya. Il y a une grande différence. Et si on arrive à passer ce cap et à aller vers la tarbiya, Inch'Allah, il y aura, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, beaucoup, beaucoup de khair. Alors, sans plus tarder, pour aller vers la troisième partie, c'est-à-dire donc les conseils un petit peu pratiques que, Inch'Allah, plus ou moins, nous tous, on est au courant de ça, ce n'est un rappel. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont été menées par différents savants, différents psychologues, comme nous l'avons dit. Et on retrouve souvent les mêmes idées qui ont été donc un petit peu évoquées en plan. Il y a un de ces savants, lui, qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes hyper focalisés sur le bonheur de nos enfants. Mais souvent, on confond le bonheur et la réussite. C'est-à-dire, ce sont deux choses différentes. Aptitudes, les aptitudes de cet enfant, il faut bien les comprendre. Il faut bien les cerner. Alors parmi ces conseils-là, qui sont, comme on a dit, un petit peu plus pratiques, il est dit que c'est bien dans l'évolution et dans le développement des enfants, il faut également qu'ils fassent des erreurs. Il faut qu'ils apprennent de leurs erreurs. Mais si nous n'allons pas leur donner un peu d'autonomie, un peu d'indépendance, alors jamais ils vont faire des erreurs. Et s'ils ne font pas d'erreur, alors ils n'apprendront pas. Donc, parfois, lorsqu'ils commencent à grandir, on leur donne des tâches à faire. Tiens, va faire ça. Va déposer un petit coussin. On leur donne des responsabilités. On responsabilise l'enfant. Et lorsqu'il a accompli la tâche, alors on félicite cet enfant. C'est très important. Vous savez, subhanallah, les psychologues, et on aime bien les psychologues, alhamdoulilah, parce qu'Allahu alam, ils sont même allés jusqu'à expliquer la différence qu'il peut y avoir dans l'éducation, la tarbiya, d'un enfant qui est fils unique ou fille unique, d'un enfant qui est ce qu'ils appellent l'enfant sandwich. Vous connaissez l'enfant sandwich ? Il est entre les deux, lui. C'est-à-dire, il y a l'aîné et il y a le plus petit, et lui, il est au milieu. Et subhanallah, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent en général, après bien évidemment ce sont des recherches, hein, il n'y a rien de qat'i et de yaqini là-dedans. Ils disent en général, vous voyez l'enfant du milieu là ? Ben lui il est parfois souvent un peu oublié. Parce que le dernier c'est le petit gâté, d'accord ? Donc papa, maman il fait très attention à lui. Le premier il est déjà adulte. Et celui qui est au milieu, ben on ne fait pas trop attention. Mais ils disent, c'est une injustice bénéfique. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Pourquoi ? Parce qu'il apprend à être indépendant. Et souvent, ils vont même jusqu'à dire que cet enfant-là, vous allez voir qu'il va souvent demander quoi ? La justice. Il va se battre pour la justice. Pourquoi ? Ben parce qu'il était un petit peu victime, entre guillemets. Mais lui, il arrive, alhamdoulilah, à bien s'en sortir. Alors, cet enfant sandwich-là, comme nous l'avons dit, donc quelques conseils pratiques très, très, très importants. Ah oui, on a oublié... on a oublié la phase de l'adolescence, on va quand même un petit peu passer là-dessus, c'est important. Alors ça, c'est un moment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive chez l'enfant? Vous allez voir qu'il va se rebeller, vous allez voir qu'il va remettre tout en cause, votre autorité, votre amour, etc. Il va passer plus de temps avec ses camarades et moins avec vous. Alors, ils nous conseillent, ils nous disent, faites preuve de patience, bien évidemment. Ne prenez pas au premier degré ces manifestations d'agressivité à votre encontre. Il est primordial de garder une certaine distance, mais en restant à l'écoute et disponible. Et souvent, ils sont un peu dans ce qu'on appelle le syndrome corporel. Ça veut dire quoi? Que l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? On le sait tous, on est un petit peu passé par là. Il va passer des heures et des heures devant le miroir. Hein? Aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de miroir. Un jour, j'ai vu ça m'a beaucoup étonné. On prend le téléphone, on met en mode caméra et on se regarde dedans comme ça. Pour voir si on est bien peigné, pour voir si, machallah, etc. Mais ça, c'est normal. C'est l'âge. Il est dans cette phase. Mais encore une fois, il ne faut pas couper la communication. Il faut rester à ses côtés et il faut être à son écoute. Donc ça, c'est très important. Et quel que soit, on va dire, le vice ou le mal dans lequel il peut tomber, jamais il faut arrêter de faire doua, bien évidemment. Jamais il faut abandonner cet enfant. Donc ça, c'est très important. Alors, comme on a dit, pour revenir un petit peu aux conseils pratiques, d'accord, des choses simples mais importantes, Cheikh Zulfiqar, rahim, daman barakatuhum, qui est un grand saint de l'islam de notre époque, lui, il a donné trois conseils seulement. Et il dit, c'est un petit peu le résumé de milliers de livres qui ont été écrits sur l'éducation des enfants. Premièrement, toujours les apprendre à dire toujours la vérité. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, être au service des aînés, des plus âgés, respecter ceux qui sont plus âgés. Ça, c'est très important. Et troisièmement, c'est quoi? C'est de faire toujours la salah. Donc, ces trois conseils-là, on va les répéter. Il dit, toujours leur apprendre à dire la vérité. Deuxièmement, de respecter les aînés. Et troisièmement, de faire la salah. Vous avez ensuite un hadith rapporté par Hazrat Ali radiallahu anhu qui dit en ce sens, Addibu awladakum ala thalathi khisali. Éduquez vos enfants et inculquez en eux trois qualités. Premièrement, hubbul Qur'an. L'amour du Saint Qur'an. Deuxièmement, hubbul Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, hubbul ahlil bayt. Les gens de la famille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de rester, d'avoir et d'acquérir, de développer cet amour pour la famille du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors toujours dans les conseils un petit peu pratiques, vous avez différentes méthodes également. Il y a la fameuse méthode très à la mode Montessori, que vous avez certainement entendu parler. Et il y a également ce que certains appellent la discipline positive. Alors en deux mots, ça consiste en quoi? Discipline positive, c'est quoi? Créer un dialogue qui part d'un regard d'amour. Essayer de rentrer dans l'esprit du jeune en le laissant parler de ses problèmes, lui donner la parole sans le juger. Il y a quelque temps de cela, lorsqu'on a eu une discussion avec des adolescents, mais avant cette discussion, pour qu'ils s'ouvrent, pour qu'ils se confient, alors il faut qu'ils se sentent en confiance, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Mes frères, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a autour de nous, peut-être qu'on ne le réalise pas, il y a autour de nous des jeunes qui ne sont pas épanouis, qui vivent un mal-être très profond. Et lorsqu'ils viennent vers vous et qu'ils vous disent que j'ai envie de me suicider, alors c'est grave. Mais c'est une réalité. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'il est important d'être à l'écoute de ces gens-là. C'est pour ça qu'il est important de ne pas les rejeter. C'est pour ça qu'il est important de ne pas les abandonner. Alors, cette méthode-là, on l'a vu avec un regard d'amour, être à l'écoute. Deuxièmement, la méthode Montessori, brièvement en deux mots, mettre en place un espace. Et ce mot, il est très important. Vous voyez, le fait que parfois vous avez un enfant qui est hyperactif, lorsqu'il va aller dans un milieu social, il va s'investir dans une association, il va connaître un autre cercle de connaissances, il va développer son autonomie, sa confiance en soi. Certains savants sont allés même jusqu'à dire qu'il ne faut pas à chaque fois que mon fils, ma fille fait quelque chose, c'est un reproche. On est en train de casser l'estime de soi de cet enfant. On est en train de casser la confiance qu'il a en lui. Et malheureusement, il ne pourra pas poursuivre son évolution. Donc un espace où l'enfant est capable de comprendre et différencier les choses par lui-même. À l'aide de ses sens, il va développer des capacités, un sens de la responsabilité au sein d'un groupe. Alors il y a la méthode Montessori, mais il y a le Coran. Ibrahim a.s. c'est ce qu'il a fait avec son fils Ismaïl a.s. construit la Kaaba avec moi. Il a impliqué son fils. Ya Bunaya, ô mon bien-aimé fils. Il lui a demandé sous une forme mashwara, inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Donc ça aussi c'est très important. Ensuite, quelques petits conseils, bref, Inch'Allah on terminera là-dessus. Lorsqu'on entre dans la maison, alors de montrer de l'affection à nos enfants, de les prendre dans nos bras, de les embrasser, de leur demander comment s'est passée la journée. Ça paraît tellement simple, évident, mais il faut quand même le rappeler. Deuxièmement, soyez bon envers les voisins. Ne faites pas leur médisance. Pourquoi ? L'enfant, il écoute. Et certains sont même allés jusqu'à dire que vous voyez dans l'enfance là, ils retiennent très bien les insultes et les gros mots. Où est-ce que tu as appris ça ? À la maison. Maman dit ça. Papa dit ça. Troisièmement, lorsque vous visitez vos parents, alors amenez vos enfants avec vous. Ça va créer en eux le respect et l'amour pour vous-même. Quatrièmement, lorsque vous les amenez à l'école, alors bien sûr, il y a la méthode entre guillemets, CD, Nazam, Qiraat, tout ça, alhamdulillah, c'est bien. Mais plus efficace que ça, c'est quoi ? C'est de leur raconter une histoire. Ces moments de partage, ça revient très 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 souvent dans les études. Ces moments de partage sont très importants. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va rester. Et n'oublions pas ce qu'on a dit, que lorsqu'il va traverser cette période de l'adolescence là, alors il ne faut pas s'affoler, il faut faire preuve de patience. Et lorsque l'enfant, Inch'Allah, l'adolescent, il aura eu le temps et l'espace pour établir ses propres compétences, intérêts et goûts, la réaction allergique à ses parents devait s'estomper. Et là, il va redevenir normal. Et il va se souvenir, se rappeler de tout ce que... Ah, papa t'a dit à nous ça. Rappelle, quand nous étions petits, il nous avait dit ça, il nous avait appris ça, on a fait un voyage avec, on est allé jouer au foot avec, on a passé du temps avec. Ça, c'est très important. Alors, donc, lorsque vous les amenez à l'école, de raconter une histoire. Et il est dit également, bon, ça c'est quand on va dire sur le chemin, mais même avant de dormir, Hazrat Cheikh Malana Abdullah Kapodra, Damat Barakatuhum, dans un de ses livres, Sada Idil, An Echo from the Heart, qui est traduit en anglais, il dit mais parlez-leur des tabi'in, parlez-leur des sahaba, de ces héros de l'islam. Parce que vous savez, arriver à un âge, c'est à l'âge de 10 ans, si je ne me trompe, d'accord ? Ah oui, à 10 ans, l'enfant, il se trouve un idéal. Il manifeste un culte pour une personne, une star. Mais si vous leur avez parlé de ces stars là-bas, Ashabi Kannujum, ben Inch'Allah, ça va être une source d'inspiration. Les Sahaba radiallahu anhum. Donc ça, c'est très important dans les histoires. Soyez exemplaires dans la pratique, dans le comportement. C'est très important. Quelqu'un nous disait, souvent on raconte l'histoire de Luqman radiallahu anhu et son fils, Ya Bunaya, oh mon bien-aimé fils, fais ça, fais ça, fais ça. Mais il dit, on oublie avant là, il y a quoi ? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ. Regardez le père comment il était. Et c'est comme ça que le fils, il a suivi cette voie là. Et ça, c'est très important. C'est très important. Ensuite, il nous dit, il ne faut pas, subhanallah, il ne faut pas se moquer de leur point de vue, de leurs opinions. Même s'il a dit quelque chose qui est pas très sensé. Mais tarbiya, éducation, c'est justement qu'ils apprennent par ses erreurs, qu'ils obtiennent cette autonomie-là. Respecter leur intimité, comprendre également que ce sont des enfants. Donc ils ont certains besoins également, ils ont besoin de s'amuser et qu'ils ne vont pas forcément comprendre la première fois, et également prier avec eux. Donc voilà quelques conseils pratiques très importants. Ah oui, bien évidemment. Parmi ces conseils-là, Cheikh Ali Al-Khawas, rahimahullah ta'ala, il disait, et on retrouve cela dans le Saint-Coran et Karim, « Je n'ai rien vu de plus efficace pour l'éducation des enfants que le dua des parents. » Faites dua. Il y a un cheikh qui, il a 7 enfants. Il est encore vivant. Hein? Il a 5 filles et 2 garçons. Ils sont tous, mashallah, dans la voie du din, ulama, alimat. Un jour, on lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai rien dit. Je n'ai jamais rien dit. Il me répond, je n'ai jamais rien dit à mes enfants. Ah, il faut que tu prennes la voie du din. Non. Bien sûr, on fait l'éducation, hein? Mais je faisais dua. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua. Et ça, il ne faut pas oublier. On a cité en introduction Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Il est devenu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala grâce au dua de sa maman. Et si on regarde plusieurs savants, Imam Ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, et d'autres également, eux aussi, ils ont bénéficié du dua de leurs parents. On va juste terminer par une petite chose, inshallah, qui est également, à mon sens, important. C'est vrai, comme on l'a dit, que nous avons en tant qu'enfants un devoir de faire ihsan. Et nous, en tant que parents, on aime nos enfants. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais il y a un point quand même qu'on aimerait mentionner. Alors, c'est un témoignage, il nous dit, donc d'un expert. Ces enfants-là, nous les avons désirés, choyés dès leur venue au monde. Mais les aimer, ce n'est pas les détenir comme on le dirait d'objet. Et ça revient à ce qui a été expliqué, qu'il faut également qu'ils aient une part d'autonomie. Il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Il faut qu'ils fassent des erreurs. Il faut qu'ils prennent des initiatives pour que, inshallah, eux-mêmes, ils peuvent avancer. Donc c'est croire en eux, les soutenir, leur confier des responsabilités à la mesure de leurs compétences, leur dire notre fierté lorsqu'ils passent des étapes, mais aussi parler de nos propres errements à leur âge au lieu de les taire. Ça va dédramatiser la situation. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde, inshallah, la compréhension de ces quelques paroles et il fasse que, inshallah, chaque enfant devienne qurratu ayn, la fraîcheur des yeux pour ses parents, et que chaque parent également devienne la porte du paradis pour chaque enfant. Qu'Allah tabarak wa ta'ala il fasse que également dans notre maison, puisque ça rejoint un petit peu le thème général, dans cette relation on amène le din, hein, on amène la lecture du Saint-Coran et Karim, on amène les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on amène une bonne ambiance, on installe un climat de confiance, que l'enfant il sait que quelle que soit l'erreur que j'ai pu commettre, mes parents, inshallah, jamais ils ne m'abandonneront. Qu'Allah nous accorde la compréhension de ces quelques paroles et qu'il accepte et nous pardonne nos erreurs. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم يا ربنا صلي وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربي ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ألهمنا رشدنا
أنفسنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب أهل بيتك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق ومن سوء الأدب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا رب العالمين.